Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Nous poursuivons notre nouvelle série de matière à penser intitulée « Les grandes figures de la médecine et de la science ». Et nous nous intéressons ce soir à Galien de Pergame, un médecin grec de l'Antiquité qui exerça à Pergame et à Rome. Et pour le découvrir, nous avons le plaisir de recevoir Véronique Boudon-Millot, directrice de recherche au CNRS, auteur du livre « Galien de Pergame, un médecin grec à Rome » aux éditions des Belles Lettres, que je vous conseille ardemment. Merci d'être là, Madame Boudon-Millot. Cette passion pour l'Antiquité que vous avez, et particulièrement pour Galien, est tout à fait remarquable, car elle nous permet bien sûr d'aborder un peu cette période et ce personnage, qui est quand même un grand personnage. Vous êtes directrice du laboratoire de médecine grecque au CNRS. Je veux dire, vous êtes agrégé de lettres classiques, habilité en grec. Vous avez appris l'arabe, je crois.
Oui, c'est
aussi,
ça.
Hein,
pour,
parce qu'il y a des traductions.
Des traductions.
Galien a eu une histoire. Enfin, les œuvres de Galien se sont un peu perdues, ont été traduites en arabe, si j'ai bien compris. Et de l'arabe a été retraduit, sont arrivés un peu plus tard.
En Occident.
En Occident.
En latin, pour certaines œuvres.
Donc, vous voilà, latiniste, grec et arabe.
Et arabisant. Oui.
Voilà. Donc, c'est. Voilà. Et vous avez donc, aussi bien pour les grands comme Hippocrate, Érasistrate ou Galien, donc cette passion que vous nous communiquez par vos écrits et vos interventions. Galien est un passeur hein, de l'œuvre d'Hippocrate. Il y a 5 siècles hein, qu'il les sépare.
Qu'il les sépare.
Hein. Mais il fait référence, enfin ils sont, même si des fois ils ont des points de vue différents parce que ils n'ont pas la même, exactement la même pratique, Galien va avoir une histoire quand même que nous allons détailler, mais ce qui est fascinant, mais absolument fascinant, que je ne connaissais pas, je dois dire, avant de préparer cette émission, c'est quand même la quantité de traités
d'écrits
qu'il a fait, 20 000 pages, je crois, enfin quelque chose
exactement.
Comme ça.
Exactement, 20 tomes de 1000 pages chacun dans l'édition de référence.
Voilà, donc c'est quand même fabuleux. Hein. Alors, il a la chance d'avoir vécu assez longtemps.
Hein. Exactement.
Donc, il a pu produire, c'est un des privilèges de la vieillesse, on va dire. Il va être aussi bien dans ses éditions pour les débutants, pour différentes catégories de l'anatomie, de la physiologie, de la thérapeutique. Il va être, je dirais, absolument remarquable. Mais ce qui est encore plus remarquable, je trouve, dans votre travail à vous et à vos équipes, puisque vous avez des enseignants-chercheurs, hein, je veux dire, avec vous,
oui.
C'est que vous retrouvez des textes.
Oui.
Qui ne sont pas connus, enfin, et il y en a peut-être encore d'autres.
On peut l'espérer.
Hein, voilà. Et donc, en particulier, j'ai cru comprendre que il y avait un texte relativement récent que vous avez
oui.
Vu en grec,
mais
en
ne
Grèce.
Ne pas se chagriner.
Voilà, ne pas se chagriner. Alors,
oui.
Dites-nous quelques éléments sur ce texte.
Eh bien, quand on travaille sur un auteur de l'Antiquité, comme Galien ou comme un autre, la grande difficulté, c'est d'avoir accès au texte, effectivement. Certains sont perdus, certains existent seulement en traduction. Et ceux qui sont imprimés sur la base de manuscrits, et nous partons donc à la recherche de ces manuscrits pour essayer de faire l'histoire du texte, de remonter à un état du texte qui soit le plus proche possible de celui qui a été composé par le médecin. Dans cette recherche des manuscrits, on peut tomber sur de véritables pépites. C'est le jour où on découvre un manuscrit dans lequel il y a un texte qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'est arrivé donc à Thessalonique, au début des années 2000, un manuscrit qui n'avait jamais été étudié ni repéré par les historiens de la médecine, car il était isolé, ce manuscrit, dans un monastère au milieu d'une collection d'écrits exclusivement liturgiques. Et cette collection était fréquentée par des spécialistes de la littérature. Liturgique et pas du tout par des spécialistes de médecine. Et quand ce manuscrit a été découvert par un de mes étudiants, d'ailleurs, Antoine Pietrobelli, et qu'il a pris contact avec moi pour me demander si ce manuscrit était important, qu'est-ce qu'il y avait dans ce manuscrit, J'ai eu la surprise, au vu des premières images, dans un premier temps, de découvrir...
Parce qu'il a photographié, quoi.
On a commandé des images. Maintenant, on travaille avec des microfilms. Enfin, on travaille avec des microfilms, maintenant, avec des images numériques, qui ont beaucoup amélioré à la fois notre accès, évidemment, aux manuscrits et la qualité des photos sur lesquelles nous travaillons. Et puis, il faut toujours avoir une vision autoptique de ces manuscrits. Mais dans un premier temps, on peut se rendre compte, donc, très vite de la réalité d'une découverte. Et la grande surprise et la grande émotion pour moi fut de décrypter un texte qui commençait comme une lettre, parce que c'était une lettre adressée par Galien à ses amis restés à Pergame, donc à l'époque on dit en Asie mineure, et Galien écrivait de Rome pour rassurer ses amis restés à Pergame en leur disant « Après le grand incendie de Rome », de 192, nous sommes en 192 après Jésus-Christ. Certes, j'ai perdu tous mes livres, j'ai perdu tous mes biens précieux, mais ne t'inquiète pas, dit-il à son correspondant, j'ai encore le courage et l'intention de récupérer tout ce que j'ai perdu, c'est-à-dire de réécrire tous les traités que j'ai perdus. Et ne t'en fais pas pour moi, je ne me laisserai pas aller au chagrin qui a emporté, d'où ce titre, ne pas se chagriner. Je ne me laisserai pas aller au chagrin qui a emporté cet autre grammairien qui, lui, pour avoir perdu tous ses livres, est mort de chagrin. Et nous avons cette lettre où Galien se confie sur le contenu de sa bibliothèque, le contenu de ses traités qu'il vient de perdre, pas tous, mais ceux dont il n'avait pas encore fait établir de copie. Et nous avons accès ainsi au cabinet médical de Galien. Nous avons la liste de ses produits les plus précieux, une description de certains de ses instruments. Et nous avons ainsi la possibilité d'entrer un petit peu dans l'intimité du médecin et de son cabinet, d'avoir accès à ses lectures et à sa vie quotidienne en réalité.
Et dans cet ouvrage, donc, il mentionne que, en fait, il a une pratique philosophique, on va dire, qu'il témoigne, je crois, en disant que chaque jour, il a un moment de méditation, je ne sais pas comment on peut l'appeler,
sur l'introspection.
L'introspection, il peut m'arriver des choses pires chaque jour. Donc, il se prépare à l'éventualité de quelque chose de dramatique qui arrive, qui peut arriver, et il dit que cette préparation psychologique donc le permet de surmonter justement lorsque c'est arrivé, et celui-là en particulier il est assez fort puisque cet incendie va être redoutable à plus d'un titre, mais particulièrement pour lui quand même dans cette perte-là.
Alors la philosophie prend et occupe une place très importante dans l'œuvre de Galien. Galien a suivi des études de philosophie au tout début de sa formation, quand il était encore un jeune homme.
Il est très jeune.
Il nous le raconte.
Oui, mais il est très jeune.
Il est très jeune,
c'est une philosophie à 14 ans.
Une philosophie à 14 ans, mais on était médecin à 19 ans. Donc, et on pouvait mourir très tôt, donc on avait une vie un peu en accéléré.
En raccourci.
Et cette philosophie, dont il va bien sûr approfondir le contenu tout au long de sa vie, constitue la base de son entrée dans la vie intellectuelle. Il est d'abord philosophe. Il commence par des études de philosophie. Il le fait comme on le fait beaucoup à l'époque romaine pour accéder à un niveau de rhétorique, de logique qui vous permet de prendre la parole en public, très important à l'époque, pour communiquer correctement son savoir, s'imposer dans sa spécialité et obtenir les places que l'on recherche à obtenir. Donc dans cette civilisation de la parole, de l'oral, où tout passe par le discours, les études de philosophie sont une voie assez attendue. Mais très vite, le médecin qui sommeille et l'esprit très logique qui sommeille dans Galien se réveille et dit « mais ces philosophes, ils se contredisent entre eux ».
Oui, mais alors ça, c'est assez extraordinaire, parce que, effectivement, c'est l'argument que vous retrouvez sur ce fait qu'il y a des contradictions entre les philosophes, tout ça. Mais ce qui est un peu drôle, c'est qu'après, quand il va raconter ce qui se passe à Rome, il y a des contradictions entre les médecins, ça n'arrête pas.
Des controverses, ça n'arrête pas.
Des controverses, ça n'arrête pas. Devant le même malade, ils sont convoqués, parce qu'à l'époque, en plus, c'était comme ça.
Oui.
C'est-à-dire qu'on convoquait plusieurs praticiens, médecins, et chacun donc donnait son point de vue, en même temps dénigrait un peu l'autre pour
se faire... Et débattait avec les autres.
Voilà, et débattait, donc il y avait déjà
ce débat. Oui, mais l'importance de la parole, justement, voilà, on retrouve l'importance de la parole, à laquelle il était spécialement bien formé, et pour surmonter donc ces contradictions de la philosophie, Galien, qui est issu d'une famille, on dirait aujourd'hui de scientifiques, il y a un architecte, un géomètre dans sa parentèle proche, va se diriger vers des études de médecine qu'il considère justement, lui déjà, pour utiliser un terme un peu anachronique, des études scientifiques qu'il va aborder en se dotant d'une méthode. Et la méthode, c'est très important pour Galien. La méthode, dit-il, consiste à marcher sur deux jambes, la logique et l'expérience, le logos et peira. Et toujours donc la logique, le raisonnement si l'on veut, et l'expérience. Et il va toujours essayer d'éprouver par les faits ce qu'il aura avancé par la parole. Bien sûr, il va se tromper, il va échouer, mais au moins il était guidé par ce principe. Et donc, il va vers la médecine et il cherche dans la médecine une voie qui soit celle de la vérité, de la vérification, en tout cas, qu'il n'avait pas trouvé chez les philosophes.
Alors, en même temps, c'est une période, enfin, cette période antique où les médecins sont pas stricto sensu que des physiologistes et des thérapeutes, hein. C'est-à-dire qu'ils ont, justement, des points de vue sur les mathématiques, sur la philosophie, justement, que vous évoquez. On est quand même dans la tradition d'un humanisme médical qui traite pas uniquement l'organe, mais qui essaye, d'ailleurs, on va le voir dans son approche aussi, où il va beaucoup tenir compte de l'environnement, on peut pas appliquer la même méthode, d'ailleurs, à une personne selon son âge, selon sa situation, etc., etc. Oui. Donc, il va s'adapter. Et c'est vrai que cette médecine-là, que vous retrouvez dans toutes vos études, Madame Boudon-Millot, on pourrait dire parfois qu'elle nous manque un peu.
Personnalisée. Hein,
actuellement. Oui. Personnalisée, mais aussi un point de vue un peu plus large.
De tout l'individu.
Autant, si vous voulez, bien sûr qu'il y a des connaissances et on peut plus avoir la somme de connaissances de tous les organes et de toutes les situations, de toutes les pathologies, de toutes les thérapeutiques, mais il manque un peu
cette vision globale
et de replacer l'individu dans son environnement.
Oui. Alors, cette vision globale, effectivement, c'est propre à la médecine grecque. Elle est héritée d'Hippocrate, qui a toujours dit qu'il fallait prendre l'homme, qui était un microcosme, dans un tout, dans son environnement, qui est le macrocosme. Et connaître l'homme, c'est aussi ça suppose connaître aussi le macrocosme, c'est-à-dire tout ce qui l'entoure. Et ça, c'est une attitude très hippocratique et très, j'allais dire, grec, qui s'inscrit et qui fait la différence avec la médecine égyptienne, par exemple, qui était une médecine de spécialistes et de spécialisation. Il y avait des spécialistes de l'œil, donc des ophtalmologistes avant l'heure, de telle partie du corps. Et la médecine grecque revendique d'être une médecine
globale,
qui prend en compte tout l'individu. Oui.
Alors, nous sommes justement, puisque vous évoquez les temps, le temps grec de cette Asie mineure, hein, puisque Pergame, c'est en Turquie actuelle, quoi, oui. On va dire. Donc, c'est la grande période de Pergame, d'Éphèse, enfin,
oui,
tout ça.
On parle grec.
Voilà. Et on est quand même, on va basculer, donc, dans cette puissance romaine.
Hein, oui.
Qui va, donc, puisque Pergame va devenir romanisé. Hein,
parmi les premiers royaumes avec Attal. Oui.
Voilà, donc on est juste à cette transition, hein. D'ailleurs c'est le titre de votre livre, que vous donnez, donc un grec à Rome.
Un grec à Rome.
Un grec à Rome. Et on va avoir, donc c'est la toute puissance quand même de Rome dans ces années avec Mare Nostrum, c'est-à-dire que vraiment la Méditerranée est... Jusqu'à Marc Aurèle va monter dans le nord avec donc une puissance.
On rentre dans un monde déjà globalisé pour l'époque, en réalité.
Là, c'est vraiment tout ce qu'on connaît un peu, c'est romain. Ça devient romain.
Et ça va être une grande chance pour Galien, parce qu'il comprend très vite qu'il n'a d'avenir qu'en allant à Rome. Donc, pour devenir un grand médecin, il faut aller faire carrière à Rome. Alors, il n'y va pas directement, on y reviendra peut-être, mais il faut faire carrière à Rome, et il va parvenir jusqu'à l'entourage des empereurs, et il va vivre à Rome et développer donc cette science et cette médecine grecque dont il devient le plus grand représentant sous trois empereurs, puisqu'il a cette longévité exceptionnelle. Marc Aurèle, Commode, Septime Sévère. Caesar. Et c'est un témoin aussi, un témoin grec de la Rome impériale.
C'est-à-dire qu'il va être, en lien avec ses empereurs, oui. Mais en même temps, il ne va pas être le médecin des empereurs.
Il garde une
certaine distance.
Oui. Que lui permet sa fortune personnelle. Oui. Donc, il a une grande liberté à laquelle il tient énormément en tant qu'intellectuel, en tant que praticien. Et il va se méfier toujours beaucoup de la vie de cour et de ses revers toujours possibles quand on est trop près de l'empereur. Et il saura jouer finalement assez habilement, échappant aux persécutions de Commode, par exemple. Donc, une grande sagesse. S'approchant, mais pas trop près.
Même avec Marc Aurèle, hein, parce que quand oui. Marc Aurèle lui propose de qu'il vienne avec lui dans les campagnes contre les Nordiques.
Il comprend très vite que le destin de médecin militaire n'est pas fait pour lui.
Voilà, et donc il va trouver le moyen. Alors il va dire qu'il a eu un rêve sur Asclépios, donc oui. C'est le serviteur d'Asclépios.
Oui.
Alors, si Dieu a parlé, le Dieu de la médecine a parlé, oui. En lui disant, il a eu un rêve, donc, dit-il, sur le fait qu'il doit rester à Rome, alors Marc Aurèle s'incline et le laisse à Rome.
Oui, mais je crois qu'il ne faut pas lire cet épisode de façon ironique. Ils y croyaient.
Ils y croyaient
je veux
vraiment.
Dire, Galien, comme Marc Aurèle y croyait, Asclépios pouvait manifester sa volonté. Il l'avait fait en l'occurrence, et même si ça arrangeait beaucoup Galien d'y croire, ils y croyaient. Et donc Galien obtient effectivement de ne pas suivre Marc Aurèle dans ses campagnes sur le Danube, où la vie était difficile, sous la tente, le froid, les épidémies. Grandes épidémies qui vont ravager l'Empire pendant ces époques-là. Et donc Galien reste à Rome attaché au jeune Commode, qui est certainement une position beaucoup plus confortable. Et il suit le jeune Commode dans ses villégiatures et il peut écrire. Il a tout loisir pour écrire pendant que Marc Aurèle défend les frontières de l'Empire au nord froid et brumeux de l'Europe actuelle.
On peut renvoyer les auditeurs à Gladiator, ce film merveilleux qui on voit Marc Aurèle en train de mener campagne et puis Commode avec ses crises de folie, on va dire, même
oui.
Si c'est pas tout à fait réaliste, il meurt pas comme
oui,
ça dans
mais
la reine,
mais c'est pas tout à fait faux.
Mais c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire oui. On va venir d'ailleurs sur les gladiateurs dans quelques instants. Mais auparavant peut-être revenons un peu à son parcours qu'on
oui.
A abordé avec vous, Véronique Boudon-Milo, le parcours de Galien, qui donc, à 19 ans, se retrouve orphelin.
Oui, la mort du père est riche.
Puisque, voilà. Et donc, il a les moyens de suivre ses penchants. Il va faire un voyage. D'ailleurs, il va pas mal voyager. Il va aller à Smyrne, à Corinthe, à Alexandrie. Ouais. Et il va atterrir à Alexandrie, que vous avez vu il y a peu de temps, plus de jours, puisque vous y étiez. Et vous avez recherché les traces de Galien, je suppose,
oui.
À Alexandrie.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il fait à Alexandrie? Qu'est-ce que vous avez fait, vous?
Et pourquoi aller à Alexandrie? Donc, à 19 ans, plus rien ne le retient à Pergame. Il quitte les derniers liens qui le rattachent à sa famille paternelle et il part. Alors, il suit ses maîtres. Il suit les maîtres qu'il a eus à Pergame et qui, pour certains, enseignent à Smyrne, à Corinthe. Donc, il fait un petit peu le tour. C'est Erasmus avant l'heure. Il fait le tour des grands centres médicaux de l'époque et il apprend en suivant ses médecins, ses maîtres dans leur pratique. Il va au chevet des malades et de façon très moderne finalement, il apprend au chevet des malades, au contact de ses médecins, à pratiquer toutes sortes de gestes. Et puis surtout, il va donc à Alexandrie. Alors Alexandrie, il va y rester 4 ans. Et Alexandrie, c'est l'expérience paradoxale, puisque dans ses écrits, il nous dira n'y avoir rien appris et en avoir retiré une impression détestable. Mais en réalité, il y vient avec un espoir immense qui va être déçu, c'est d'approcher les œuvres et les héritiers des grands anatomistes alexandrins que sont Hérophile et Erasistrate, qui ont exercé donc à Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère, et qui ont eu ce privilège qui a disparu à l'époque romaine, ça Galien le sait, ce privilège incroyable de pratiquer l'anatomie humaine. Donc de disséquer des corps qui étaient des corps de condamnés, condamnés à mort, qui étaient mis à la disposition des médecins, autant qu'on puisse le percevoir d'après nos sources, par les Ptolémées. Mais au moment où Galien arrive, ce qui reste à Alexandrie, ce sont des fragments, des bribes de l'enseignement des Rophiles et des Rasistrates, mais aussi apparemment des squelettes, parce qu'il nous dit qu'au moins, si on va à Alexandrie, la seule chose qui vaut encore la peine d'y aller, c'est qu'on...
C'est les os humains.
Donc apparemment, il devait y avoir encore des squelettes humains conservés, dans un bon état de conservation, et on pouvait apprendre au moins sur ces squelettes ce qu'était l'anatomie humaine. Et puis il a dû apprendre des tas d'autres choses, mais dont il préfère s'attribuer la réussite sans la devoir, sans, c'est un trait de Galien, de ne pas rendre toujours hommage à ceux qui l'ont formé et de ne pas dire toujours d'où viennent les découvertes dont il s'attribue la paternité.
Mais vous qui avez étudié justement cette histoire, cette partie de l'histoire, en Égypte, ils sont toujours très forts sur les embaumements, sur les onguents, oui, sur les parfums, sur les huiles utilisées. Et il va sans doute, même s'il ne le reconnaît pas, il va sans doute...
Alors il va apprendre des tas de choses, c'est évident. Il va apprendre, il va enrichir sa pharmacopée de façon extraordinaire. Il va pouvoir lire ses écrits d'Hérophile et des Rasistrates, assimiler toutes ses connaissances anatomiques et ses avancées qu'Hérophile et Rasistrate ont fait faire à la médecine grecque en identifiant et en distinguant par exemple les veines et les artères, chose qui n'avait pas été faite par Hippocrate, en identifiant le nerf optique, en pouvant voir des éléments anatomiques et identifier des éléments anatomiques très fins, très très difficiles comme les trompes, décrire l'utérus, parce que c'est une anatomie qui n'est pas seulement masculine mais aussi féminine. Les cadavres qui ont été disséqués par Hérophile et Rasistrate étaient aussi des cadavres de femmes.
D'ailleurs, l'Égypte a une certaine tradition là-dessus, puisque on retrouve dans la Bible le fait de la description des premières images de l'embryon par la dissection de prisonnières dont on savait quand est-ce qu'elles avaient eu des rapports. Enfin, c'est ce qui est dit dans la Bible. Et donc, à l'œil nu, on voit
l'évolution.
Un petit grain de tapioca qui est la première vision de l'œuf humain, mais qui arrive qu'au bout de 40 jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision humaine, microscope oui, mais pas la vision de l'œil, pour définir l'embryon avant 40 jours. D'où, dans l'Ancien Testament, avant 40 jours, l'homme n'est rien, ce n'est que de l'eau, et à partir de 40 jours, il devient constitué. Mais nous y reviendrons dans un instant.
Culture, matière à penser, René Friedman.
Voilà, après une petite valse, enfin une grande valse on va dire, numéro 6 de Chopin, nous retournons à notre thématique avec Madame Véronique Boudon-Millot, directrice de recherche au CNRS, auteure de Galien de Pergame, un médecin grec à Rome, publié aux éditions des Belles Lettres. Ça nous permet donc ce plongeon dans la tête d'un grand savant, mais aussi d'une époque, hein, d'une époque où c'est la fin de l'empire, des Grecs par rapport à la naissance maximum des Romains. Et donc nous sommes avec un Galien qui a voyagé, s'est trouvé à Alexandrie comme nous l'avons vu tout à l'heure. Vous avez été donc sur ses pas récemment, qui essaye donc de comprendre l'anatomie, qui est quand même sa grande thématique. Mais il va être un médecin, et un vrai médecin, c'est pas uniquement un théoricien. Et il va surtout essayer d'intervenir aussi bien sur la thérapeutique que sur la compréhension des phénomènes, c'est-à-dire de la physiologie. Donc il va étudier tout ce qui sort du corps, hein, déjà, oui. Que ce soit les urines, les fesses, les vomis, enfin tout ce qui est accessible.
Les humeurs,
on va dire, hein, les humeurs.
Parce qu'il faut parler des humeurs.
Voilà, vous avez raison. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il va développer la science de l'étude du pouls.
Absolument, la sphygmologie, sphygmos, le pouls en grec.
Alors, j'ai cru comprendre en vous lisant qu'il a décrit 27 types de battements cardiaques, puisque le pouls n'est que le reflet du battement cardiaque.
Ouais.
Et c'est dire que c'est une sensibilité clinique assez remarquable.
Alors, n'étant pas médecin, je ne sais pas si on peut réellement arriver à ce degré de sensibilité pour percevoir autant de différences entre les pouls. Mais en tout cas, lui, il avait le vocabulaire, Galien avait le vocabulaire pour nous les décrire. Et alors, il y a le pouls qui est petit, long, dur, serré, mou, relâché, fourmillant, vermiculant. Enfin, il a tout un vocabulaire extraordinaire pour nous décrire toutes ces pulsations. Et là, il est dans l'héritage et dans la tradition hérophiléenne, puisque Hérophile avait déjà, donc cet Alexandrin déjà évoqué, avait accordé une grande importance à la pulsation, au pouls. Et Galien recommande de le prendre exactement, je crois, comme on continue de le prendre aujourd'hui, c'est-à-dire au poignet, donc, et il le fera pour Marc Aurèle, et il prétendra, quand on est habitué au pouls d'un patient, pouvoir reconnaître les moindres variations qui renseignent donc le médecin sur l'état de son patient par rapport à un état dit normal. Le moindre écart permettra d'être renseigné sur tout ce qui se passe dans le corps du patient en question.
Il y a d'ailleurs une histoire, si elle est vraie, qui est assez drôle, c'est que Marc Aurèle est donc souffrant, il y a plusieurs médecins, et à un moment donné, on demande à Galien
d'intervenir,
de prendre le pouls. Oui. Et Galien refuse.
Oui, parce qu'il dit, moi je ne connais pas le pouls de Marc Aurèle,
à l'état normal,
donc je ne pourrais pas en déduire un diagnostic, poser un diagnostic sûr, parce que je ne pourrais pas mesurer les écarts par rapport à cet état normal. Mais il va se rattraper par la suite, puisqu'il va se rapprocher de Marc Aurèle.
Oui, mais au contraire, ça interroge Marc Aurèle, qui se dit, bah, tiens, celui-là...
Il est sérieux,
oui, il ne fait pas tout et n'importe quoi.
Exactement.
Puis alors, il y a un deuxième épisode là, que vous aimez raconter, qui est l'histoire de Pylade.
Oui, la femme de Justus, amoureuse du danseur Pylade. Alors là, le pouls permet d'accéder non pas seulement à des modifications pathologiques, physiologiques, mais aussi à des états psychologiques. Et c'est là où Galien est très moderne, puisque finalement, il est médecin des corps, mais il est aussi médecin des âmes. Donc, il est appelé par ce Justus, parce que sa femme souffre d'insomnie et empêche de dormir ce pauvre Justus, qui est gêné par cette femme qui doit se retourner à côté de lui toute la nuit. Et Galien prend le pouls de cette jeune femme et va mesurer au moment où entre le danseur Pylade dans la pièce où se trouve cette jeune femme, une accélération du pouls telle que Galien va en conclure que simplement cette jeune femme est amoureuse, bien sûr, en secret d'un danseur et que ses insomnies sont le signe d'un mal d'amour, bien sûr, dissimulé au mari. Et Galien ne nous dit pas s'il va poser le diagnostic
ouvertement
au mari.
À l'époque, oui. On parlait au mari, pas à la femme.
Oui,
c'est le mari qui parlait des souffrances de sa femme.
Absolument, parce que c'est le mari qui appelle le médecin et c'est le mari qui assiste normalement à la consultation. Il y a d'autres cas, qu'il s'agisse de femmes ou d'enfants, la femme étant ravalée là au rang de mineur.
Alors, sur cette étude du pouls et toutes les conséquences, il a écrit un nombre de livres
incroyable. 16 livres.
Hein, 16 livres, 16 uniquement livres. Sur la description que vous évoquiez tout à l'heure des différents types de battements cardiaques. Quoi.
Absolument.
Donc, c'est assez extraordinaire.
Sur les causes du pouls et ce qu'on peut diagnostiquer à l'aide du pouls.
Alors, dans son histoire, il va demander à être, à un moment donné, il va concourir quoi, pour être reconnu comme médecin des gladiateurs.
Oui. Oui.
Parce qu'on va rentrer dans la période que va prôner le cirque hein, en particulier. Alors c'est peut-être antérieur ça, Commode, l'empereur Commode qui va faire beaucoup les jeux du cirque pour le peuple.
Alors oui, les combats de gladiateurs étaient liés.
Existaient déjà.
Oui, existaient déjà et étaient liés au culte impérial. Donc à Pergame, le grand prêtre de Pergame, chargé d'organiser le culte impérial, avait besoin d'un médecin pour ses gladiateurs, jeux qu'il offrait.
Le but n'était pas, comme on a un peu la tradition, de penser que la tradition était plutôt qu'il fallait aller jusqu'à la mort.
Pas du tout.
C'était des combats. Qui se terminaient par des blessures, souvent, bien sûr. Mais pas forcément, au contraire, pas par la mort, parce qu'à chaque fois, il fallait renouveler le cheptel, si je puis dire.
Voilà, mais c'est un peu comme une équipe de foot aujourd'hui qui a un soigneur. Le gladiateur, il fallait le recruter, le former, l'entretenir, et il avait finalement une valeur marchande qui faisait qu'on n'était pas prêt à le sacrifier en le mettant à mort. Au contraire, il fallait prendre soin très correctement des gladiateurs pour qu'il puisse offrir les spectacles les plus spectaculaires possibles. Et donc Galien va être dans cette caserne des gladiateurs et il va prendre soin non seulement de leurs blessures, mais de plus largement de leur régime, parce que le régime alimentaire pour les gladiateurs comme pour le reste de la population est la base finalement du traitement bien souvent proposé par le médecin. On commence par le régime, on commence par l'alimentation. On commence par essayer d'adapter le mieux possible le régime alimentaire au patient et on espère obtenir de cette façon les résultats les plus importants. Donc,
ça sur le régime, ça va être une de ses grandes contributions. Hein, ça va être justement sur le mode de vie, quoi, en un mot. Hein.
Le mode de vie. Alors, le régime, c'est très large. Vous avez raison tout à fait de dire le mode de vie parce que c'est à la fois la façon dont on dort, dont on est en temps de veille, de sommeil, les exercices que l'on fait, ce que l'on boit, ce que l'on mange, mais c'est très large. Donc c'est tout, on dirait aujourd'hui l'hygiène de vie. D'ailleurs, Galien a écrit un traité qui est souvent traduit comme cela, hygiène, où il détaille, selon les différents âges de la vie, puis après il entre dans le détail de chaque individu, mais déjà selon les différents âges de la vie, quel est le meilleur régime possible pour conserver la santé. Donc, hygiène, c'est Huguet Inès, c'est le fait d'être sain, d'avoir la santé. C'est ça. C'est exactement équivalent pour un grec, c'est le même mot. Donc, importance du régime, importance de l'équilibre du régime pour équilibrer les humeurs, dont on n'a pas encore tout à fait parlé, et qui est l'horizon et la toile de fond fondamentale de cette médecine ancienne, depuis Hippocrate. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, il faut un équilibre parfait des humeurs, des quatre humeurs, sang, phlegme, bile jaune, bile noire, donc ces liquides qui sortent du corps quand les choses se passent pas très bien. Donc, équilibre de ces quatre humeurs, qu'on ne parvient à atteindre que si l'on a un régime parfaitement équilibré pour qu'aucune des humeurs ne prédomine. Voilà, un entretien du corps au quotidien le plus adapté possible.
Donc ça va être vraiment beaucoup de ces traités hein, pour aborder cette question.
Beaucoup d'alimentation,
La deuxième chose, et puis la pharmacopée, parce que ça va être Galien, c'est quand même le dieu des pharmaciens.
Hein. Absolument.
D'ailleurs, vous savez bien sûr qu'il y a un prix Galien qui est donné chaque année en France.
Et surtout galénique.
Oui, il y a le mot galénique, mais la reconnaissance des découvertes médicamenteuses, en particulier aux États-Unis, le prix Galien, c'est des sommes conséquentes, hein, très conséquentes. Et d'avoir le prix Galien, ça veut dire qu'on développe une innovation thérapeutique. Hein. Donc on est dans ce sens-là. Donc la pharmacologie, la connaissance des plantes et de leurs substances.
Il y a 3000 pages de Galien. 3000 pages de recettes. C'est vraiment la forêt vierge encore.
C'est encore fabuleux.
C'est pas traduit. On peut le dire aussi, c'est pas traduit.
La troisième action, donc le régime, la pharmacologie qu'on vient d'aborder rapidement, et c'est la chirurgie. Et justement, lorsqu'il est niveau des médecins, des gladiateurs, il va de temps en temps pratiquer la chirurgie. D'ailleurs, pour être recruté, il va disséquer un singe devant le grand prêtre qui recrute et va montrer qu'il le répare, il ferme l'abdomen, il sort l'intestin, il le remet, il ferme l'abdomen. Et puis le singe est vivant, il s'en va, on ne sait pas ce qu'il devient. Mais enfin voilà, donc il est
réussit
reconnu
là
comme,
où les autres n'avaient pas la même habileté technique.
Donc on est quand même vraiment dans quelque chose d'assez remarquable. Alors, la pharmacopée qu'on évoque pour lui, il y avait déjà des médecins ou d'autres personnes qui avaient essayé, par exemple Dioscoride avait essayé de faire, il est cité par Galien,
qui le connaît, qui le cite, qui l'utilise, qui le reprend.
Et alors, il reprend comme ça un certain nombre de choses, en particulier la saignée d'Hippocrate. Alors, part que lui, il va le faire sur lui-même.
Oui.
Et il va faire une nouvelle saignée, c'est-à-dire une saignée
entre deux doigts, une artère de la main.
Et c'est toujours ce que vous évoquiez tout à l'heure, Madame Boudon-Millot, c'est-à-dire l'équilibre des humeurs. Donc là, il y aurait, parce qu'heureusement on a arrêté les saignées, mais il fallait rééquilibrer les pléthores, et surtout quand il y avait des mauvaises alimentations, donc il y avait de véritables pléthores, il fallait un peu vider les humeurs et rétablir les... Mais on n'avait pas beaucoup de choses à... ingurgité, par contre, pour équilibrer dans l'autre sens.
Il y avait des lavements, des émétiques.
Oui, mais tout ça, c'était pour vider.
C'était pour
remplir. Et là, vous insistez beaucoup là-dessus, c'est, il va être, quand il va être à Rome, il va être le maître de la fameuse potion magique de Marc Aurèle.
La
thériaque. Qu'est-ce que la thériaque?
Le mot vient de terre, théros, c'est la bête sauvage et en particulier la vipère. Donc, c'est une potion qui, en plus de la vipère et de l'opium, est constituée de plus de 70 ingrédients différents. Et c'est en quelque sorte un résumé de la pharmacopée antique, avec à la fois des ingrédients minéraux, végétaux et métalliques aussi. Voilà. Et cette thériaque qui... contenait un élément actif, l'opium, qui devait quand même beaucoup soulager les fièvres et les différents maux dont souffrait cette population, qui par ailleurs n'avait pas beaucoup d'autres ingrédients aussi puissants que celui-là, va être préparé au sein du palais impérial, parce que pour réunir autant d'ingrédients, il faut un magasin botanique déjà très important, et pour les empereurs, c'est un médicament très cher à réaliser, très compliqué à réaliser, avec des étapes successives complexes. Et cette thériaque va se maintenir dans l'histoire de la médecine jusqu'au début du 19e. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'on va avoir des pots de thériaque dans toutes les pharmacies jusqu'au début du 19e. Et cette thériaque, particulièrement bien appréciée des empereurs, va l'être un peu moins de Commode, qui décidément n'est pas un bon empereur, mais ensuite va être de nouveau appréciée.
Il va le décharger de cette responsabilité sous Commode, mais il va la retrouver sous Septime Sévère.
Et cette thériaque, c'est vraiment ce qui va permettre à Galien d'avoir ses entrées au palais impérial pour la préparer, pour la doser de façon qu'elle convienne parfaitement au goût de Marc Aurèle, qui se la fait expédier sur les rives du Danube où il est en campagne et qui va remercier et féliciter Galien du bon goût de sa thériaque, parce que Galien aura eu l'idée de mettre une bonne cannelle particulièrement parfumée et aussi aura eu le talent d'ajuster précisément le dosage d'opium adapté donc aux activités de l'empereur, parce que Marc Aurèle s'était plaint qu'il s'endormait à cheval, donc il y avait sans doute un peu trop d'opium et qui devait un peu trop endormir l'empereur. Et puis, avec un peu moins d'opium, Marc Aurèle avait des insomnies, donc Galien a su exactement trouver le bon dosage de thériaque et être le fournisseur officiel, on peut le dire comme ça, le fournisseur officiel de la thériaque impériale pour Marc Aurèle.
Une autre de ses activités tout à fait remarquable, c'est par rapport aux épidémies de l'époque que vous évoquiez tout à l'heure, Madame Boudon-Millot, qui ravage donc les armées. Hein,
par vagues successives.
Alors, on pense que c'est la peste, mais on hésite entre peste et variole, si
alors,
j'ai bien compris.
On traduit par peste parce qu'on n'a pas le mot grec. La meilleure traduction, c'est pestilence. En réalité, ça n'est vraisemblablement pas la peste, mais plutôt la variole. Et cette épidémie est rapportée d'Orient par Lucius Verus, qui est un empereur associé au début de son règne à Marc Aurèle. Donc Lucius Verus rentre d'Orient et ramène avec ses armées à Rome la variole, une pestilence. Et désormais, la peste, appelons-la comme ça, va ravager l'Empire par vagues successives pendant tout le deuxième siècle de notre ère et va décimer l'armée, va causer un nombre de morts qu'il est difficile à évaluer mais qui se compte par milliers, ça c'est certain, et les médecins sont impuissants. Et il est un épisode particulièrement bien documenté, c'est celui où Marc Aurèle a pris ses quartiers d'hiver à Aquilée, donc dans le nord de l'Italie. Il s'apprête à lancer une nouvelle offensive contre les Germains sur les rives du Danube, mais l'armée cantonnée à Aquilée meurt par milliers. Donc on rappelle Galien qui était à ce moment-là à Pergame, et Galien arrive à Aquilée en plein hiver et constate l'étendue des dégâts. Et l'empereur repart à Rome. Lucius Verus meurt, on peut-être, ne sait pas de quoi, peut-être d'une attaque, peut-être d'autre chose. Et donc la situation est particulièrement grave. Galien prodigue les soins aux soldats, mais sans grande efficacité, sans grand résultat évidemment. Et tout au long de sa longue carrière, il fait allusion à cette grande peste qui, donc, à intervalles réguliers, revient. Et bien que ne pouvant pas proposer grand-chose, il reste quand même un de ces grands médecins qu'on appelle en cas d'urgence quand la situation est particulièrement désespérée.
Mais qu'est-ce que c'est que son remède, c'est pas ce qu'on appelait
la terre
d'Arménie ?
C'est la terre d'Arménie, voilà. Oui. C'est la seule chose qu'il considère comme efficace. Alors, cette terre d'Arménie, il y a plusieurs médicaments à base de terre. Il y a des cachets qui étaient fabriqués à base de terre lemnienne, donc de Lemnos. Et il a trouvé là un médicament à base de terre d'Arménie qu'il devait manifestement appliquer sur les sortes de chancres, donc de ces grosses plaies causées par la variole, si c'est la variole. En tout cas, il décrit des plaies particulièrement redoutables. Et il utilise la terre d'Arménie et il dit, dans certains cas, avoir obtenu des résultats et avoir obtenu des...
De toute façon, il y avait des survies.
Il y a toujours des survivants dans les,
dans les épidémies. Sinon,
sinon, on ne serait pas là.
Voilà. Donc, on ne sait pas si c'est ça.
Il attribue à la terre d'Arménie certains de ses résultats.
Donc, il va faire l'aller-retour plusieurs fois entre Rome et Pergame. Ce qui est assez étonnant, c'est que ses écrits vont donc rester du côté de la chrétienté d'Orient.
Oui, parce qu'il avait une stratégie éditoriale assez incroyable. Parce que c'était quelqu'un qui avait le souci de sa postérité et le souci de léguer une œuvre. Mm-hmm. Et donc, s'il a tant écrit, c'est parce qu'il dictait déjà beaucoup de ses œuvres.
Il avait une sténo.
Voilà, il avait des scribes et
des
formés.
Des scribes qu'il prenait en sténo.
Absolument,
c'est exactement ça. L'équivalent de sténo, quoi.
Oui, mais c'est ça. Et puis, il faisait établir, alors il y avait un original, évidemment, pas d'imprimerie, donc il faisait établir des copies pour que l'original, fragile par définition, ne soit pas détruit. Il faisait établir des copies, et il déposait des copies, donc à Rome, dans le fameux cabinet qui a brûlé, mais aussi dans sa villa en Campanie, où il avait une maison de campagne, et chaque été, à la période de la navigation, il expédiait à Pergame.
Où il avait aussi une bibliothèque.
Où il avait aussi une bibliothèque, mais aussi des amis qui étaient chargés de déposer dans les différentes bibliothèques d'Asie mineure un exemplaire des écrits de Galien. Donc du vivant de Galien, il y a des exemplaires de ses écrits dans les grandes bibliothèques de Rome, un dépôt en Campanie, et puis dans les différentes bibliothèques d'Asie mineure. Donc dès la fin de sa vie, il organise vraiment la transmission de son héritage littéraire.
Madame Véronique Boudon-Millot, je suis sûr que vous allez découvrir d'autres textes de notre ami Galien et que ce sera l'occasion de se revoir pour poursuivre cet entretien. Merci à Catherine Donnet, à Sandrine Chaperon, à Dany Journeau, à Julien Douminc de nous avoir permis cette émission du début d'année. Et nous voilà donc avec un site internet que vous pourrez réécouter et puis aussi un podcast pour une écoute à la carte. Nous continuons demain cette série sur les grands médecins, les grands scientifiques dans notre histoire humaine. À bientôt.